Bonjour, vous écoutez le podcast de l'APM. Aujourd'hui, nous accueillons Théo Duverger avec qui nous allons parler de performance, d'influence et d'hypnose. Après avoir exercé une carrière de docteur en médecine vétérinaire pendant 8 ans, Théo s'aperçoit d'une chose. C'est pas lui qui soigne les animaux, mais leurs propriétaires. Alors il cherche un moyen d'améliorer la manière dont ceux-ci respectent ses prescriptions. Il se passionne pour différentes techniques d'influence et tout particulièrement l'hypnose. Bonjour Théo.
Salut Rémi.
Alors Théo, là, tu me disais que tu es en Guadeloupe.
T'as de la chance, hein.
On entendra peut-être quelques chants d'oiseaux au loin.
Exactement, et des bouteilles de rhum qui se débouchent.
Non, il est trop tôt là.
Il n'y a pas d'heure pour du bon rhum.
Bienvenue sur le podcast de l'APM. Dis-moi, la première question qui m'est venue en préparant, c'est quand tu étais enfant et qu'on te demandait quel métier tu souhaitais faire, qu'est-ce que tu répondais ?
Ah, je répondais que je voulais être comédien, figure-toi. Et mon père me disait, c'est pas un métier. Donc, j'ai cherché un métier qui pouvait me faire plaisir, qui m'amusait, et dans lequel, une fois que j'aurais vite fait mes études, je pourrais devenir comédien. Donc, je me suis orienté vers le métier de vétérinaire. Et c'est vrai que les études étaient marrantes, et le métier un peu moins, par contre.
Parce que là, c'est ça. Hein. En général, aux gamins, quand on leur demande ce qu'ils veulent faire, ils disent vétérinaire ou magicien. Puis toi, il y avait un peu les deux, là, je trouvais. Un peu vétérinaire d'un côté, magicien avec l'hypnose de l'autre.
Ouais, exactement. Et bah, c'est exactement ça. L'hypnose est arrivée vers l'âge de 16-17 ans, quand j'ai commencé à m'y intéresser. Et c'est vrai, moi, je voulais être sur scène, je voulais faire du spectacle, du one-man show, ce genre de choses. J'ai eu la chance d'exercer. Quand j'ai eu mon diplôme, je me suis rabattu avec grande force sur Paris, où j'ai fait mes classes auprès d'un grand prof de théâtre. J'ai fait du spectacle de one-man, j'ai gagné ma vie comme ça. Et puis un jour, j'ai eu une petite fille, j'ai dû arrêter ce métier de saltimbanque pour la nourrir, quoi. Et re-véto pendant un petit moment, et puis re-hypnose qui m'est revenu en pleine face et en mode « mais ouais, ce truc-là, il est vraiment puissant, c'est autre chose que du spectacle, quoi. On peut vraiment aider les gens avec ça. »
Alors, quand on parle d'hypnose, on a un peu l'image d'Épinal. Une des images d'Épinal, c'est K, là, dans le livre de la jungle, là, qui regarde lui en lui disant « ayez confiance ». Est-ce que tu peux, toi, faire le tri dans les idées reçues qu'il y a autour de l'hypnose et de quoi on va parler, là, aujourd'hui ?
Yes. On va parler d'hypnose qui se rapproche d'une hypnose qu'on utilise au quotidien. Parce que les gens ne le savent pas, effectivement, ils ont cette image d'Épinal, d'hypnose de spectacle, d'hypnose qu'on voit dans les films. Mais en réalité, l'hypnose, elle est au quotidien, elle est en permanence présente autour de nous. L'hypnose, c'est des techniques d'influence. Donc, l'influence de soi, et on s'auto-hypnotise très fort. Et moi, je dis tout le temps, d'ailleurs, dans les interventions APM, le meilleur hypnotiseur, voire le pire hypnotiseur du monde, se trouve entre vos deux oreilles. Et on peut aussi influencer les autres. Et là, on va entendre parler de marketing, neuromarketing, technique de communication, technique de vente. Et quand on regarde bien tout ça, l'origine, c'est quand même l'hypnose. Pas l'hypnose de spectacle, une autre forme d'hypnose qu'on appelle l'hypnose ericksonienne. Début des années 1900, un génie qui a révolutionné cette pratique pour aider ses patients, accompagner ses patients qui avaient des blocages à se libérer.
Et c'était comment ? Alors, c'est quoi les bases de l'hypnose ericksonienne ?
Les bases de l'hypnose ericksonienne, à l'opposé de l'hypnose classique, c'est qu'on ne va pas prendre le pouvoir sur quelqu'un. La personne, tu vois, à aucun moment, elle va avoir l'impression qu'elle ne perd connaissance, elle ne perd ses moyens. On va être dans ce qu'on appelle une hypnose très permissive. On va permettre aux gens d'être qui ils sont, mais on va leur suggérer des éléments, on appelle ça justement des suggestions. Par des suggestions, on va leur implanter des idées, petit à petit, et ils vont avoir l'impression que ces idées sont OK pour eux, et donc ils vont adhérer à ces idées et finir par les mettre en pratique. L'hypnose de spectacle, c'est une hypnose très autoritaire, très directive. C'est l'hypnose des cirques Barnum, tu vois, c'est déshabillez-vous, tombez, fermez les yeux, vous êtes sous mon contrôle. Bah, en hypnose ericksonienne, on s'aperçoit que l'hypnose classique ne va pas bien marcher avec tout le monde, surtout actuellement où on aime de moins en moins recevoir d'ordres. Donc on va utiliser une hypnose beaucoup plus douce, beaucoup plus permissive, et on va séparer la conscience et l'inconscience, on va dire que la conscience ne va pas voir les choses arriver. Je te donne un exemple classique que je donne très souvent. En hypnose de spectacle, on va dire à la personne « ferme les yeux », on va donner des ordres. Et le charisme de l'hypnotiseur va être très important pour faire en sorte que la personne se sente sous l'autorité de cet hypnotiseur. Et notamment, on va faire appel à ce qu'on appelle un biais d'autorité, pour que la personne réponde, nous réponde. En hypnose ericksonienne, on ne va pas dire « fermez les yeux », on va dire « c'est quoi la première chose que vous voyez, monsieur, quand vous fermez les yeux ?» On va comme occuper l'esprit de la personne, pour glisser la suggestion, ferme les yeux, tu vois. Et donc, la personne ne va pas sentir la suggestion arriver, mais va faire quand même ce que vous voulez qu'elle fasse.
Ah, mais dans auto-hypnose, moi, j'entendais On s'auto-hypnose, c'est nous qui faisons le travail. Donc, c'est
alors,
pas ça?
On s'auto-hypnotise en permanence. Je vais donner des exemples de ça. J'ai des personnes qui me disent moi, j'ai jamais fait d'hypnose alors que j'ai des crises d'angoisse. Moi, je leur dis les crises d'angoisse sont des super états d'auto-hypnose. Quand, à un moment donné, vous avez l'impression qu'il se passe quelque chose en vous, que vous avez tellement l'impression qu'il se passe quelque chose en vous, que vous amplifiez un phénomène physiologique de peur, de détresse, de panique, la respiration qui se met à accélérer, le cœur qui bat plus fort, la gorge qui se serre, bah, un hypnotiseur, il ne sait pas faire mieux que vous. Hein. Vous vous mettez tout seul dans un état d'auto-hypnose pas très bon. On peut faire l'inverse. On peut se mettre dans un état d'auto-hypnose hyper agréable. Et tu vas voir que peut-être quand il sera 11h du matin, que tu commenceras à penser à ton cassoulet du midi, bah, il se passera des petits trucs en toi. Tu commenceras à te dire, tiens, il y a l'odeur du cassoulet qui commence à arriver. Ah, c'est marrant, j'ai la faim qui s'amplifie. On se met en permanence en état d'auto-hypnose, mais tu remarqueras une chose, c'est souvent de l'auto-hypnose négative, orientée vers les peurs, vers les angoisses, vers la tristesse, vers la colère. Eh bien, moi, mon job, si tu veux, c'est d'amener les gens à se déshypnotiser d'eux-mêmes. Et c'est vraiment comme ça que je le perçois. En mettant des failles à l'intérieur de leur manière de s'auto-hypnotiser, en mettant des ruptures dans leurs patterns, dans leurs schémas mentaux, ils se déshypnotisent d'eux-mêmes pour retrouver de la liberté et arrêter leur crise d'angoisse, arrêter leur auto-limitation, par exemple.
Et donc ça, c'est la première chose, c'est des prises de conscience. Et après, tu as quoi? Tu as des outils pour faire le pas de côté ou pour...
Ah, carrément. Tu vois déjà, l'un des outils les plus simples, c'est les recadrages. Les recadrages, c'est... généralement, ça peut être des questions ou ça peut être des affirmations, voire même des suggestions qu'on va donner à une personne quand elle est enfermée dans son système mental. Quand une personne, elle te dit « j'y arriverai jamais », un recadrage simple, c'est tu lui poses la question. Quand tu dis « jamais », comment tu le sais? Parce que j'ai déjà essayé. Combien de fois t'as essayé? 3 fois. Ah, ok. T'as essayé 3 fois et tu te dis donc que tu n'y arriveras jamais? C'est intéressant comment tu amplifies le truc. Et la personne se rend compte qu'elle est enfermée dans son schéma mental, elle dit « oui, bon, ok, peut-être que je n'ai pas essayé assez, je vais recommencer jusqu'à ce que ça fonctionne. » Ça, c'est un recadrage très simple, par des questions, qui permettent à la personne de remettre en question justement leur matrice mentale et puis se libérer d'un mauvais pas.
L'art de la question, c'est un outil qui est fondamental. Toi, t'en parles aussi beaucoup. Comment tu fais pour donner des questions sans avoir envie d'induire la réponse? Parce que souvent, en situation, notamment managériale, on a envie de dire « mais c'est comme ça qu'il faut faire ». Comment tu fais, toi, pour justement être toujours dans la question?
Justement, ça, pour le coup, c'est une question qui est magnifique. Parce qu'effectivement, la première chose qu'on va apprendre dans l'art de la question, c'est à ne pas induire des réponses. C'est être ce qu'on appelle en position basse. La position basse, c'est être véritablement en position d'écoute sans juger l'autre. J'ai tout le temps pour donner une image, c'est l'inspecteur Colombo, quoi. C'est une position très naïve où l'autre va se dévoiler complètement et dévoiler complètement sa carte du monde, c'est-à-dire la manière avec laquelle il envisage le monde. Alors évidemment, il y a une forme de question qu'on appelle les questions avec présupposition. Je te donne un exemple. Si je veux que tu viennes au barbecue samedi chez moi, je vais te dire « qu'est-ce que tu apportes au barbecue samedi ?» J'induis une partie de la réponse, j'induis même une partie de ton comportement. Mais si je le demande de manière très naïve, qu'est-ce que tu fais samedi? Là, je te laisse complètement la liberté de me dire ce que tu fais ou pas. Donc, il y a des formes de questions qui induisent des réponses, qui enferment, des questions très hypnotiques, ou il y a des questions qui sont au contraire très larges d'exploration du monde de l'autre. Et c'est celle-là qu'on va utiliser dans une première partie pour récolter de l'information, et notamment en management, parce qu'on va s'apercevoir que c'est comme ça que nos collaborateurs vont nous donner des réponses et oser nous donner des réponses. Si on commence à induire des réponses chez eux, ils vont se refermer un petit peu, ils vont se bloquer. Et moi, en gros, quand j'ai des collaborateurs, j'ai envie qu'ils me donnent l'entièreté de la réponse pour savoir justement s'ils ont bien suivi ou pas la suggestion que je leur avais proposée en amont.
Et donc ça, c'est la phase suivante, quoi. On fait prendre conscience et essayer de sortir des choses de son subconscient.
Ouais.
Et puis ensuite, on utilise ces outils de questionnement là, pour pouvoir cheminer.
Exactement. Et puis ensuite, quand tu voudras manager, en tout cas moi c'est mon style de management, quand je voudrais manager quelqu'un, je ne vais jamais donner d'ordre. Jamais. Je vais toujours utiliser des questions qui amènent l'autre à comprendre qu'il va choisir par lui-même le mode de réalisation de ce que je lui demande. Je te donne un exemple. Je ne vais pas lui dire « mais j'aimerais bien qu'à partir de maintenant vous arriviez à l'heure » parce que ça va être considéré comme un ordre et on déteste les ordres, donc on va résister. Je vais lui dire « comment vous pensez faire ?» pour arriver à l'heure du coup à partir de maintenant. En position très basse, très douce, très bienveillante, je laisse la personne réfléchir au mode de réalisation de ce que je veux, c'est-à-dire qu'elle arrive à l'heure. Comment est-ce que vous pensez que vous pourrez faire pour ? Ah bah je pense que si je dépose les enfants un petit peu plus tôt à l'école et que je fais ci, bah je serai à l'heure. Super, bravo, check. Je laisse la personne la liberté de réaliser son mode d'emploi pour faire en sorte qu'elle fasse ce que moi je lui demande, arriver à l'heure.
Ok, elle ne peut pas négocier l'objectif arriver à l'heure.
Exactement. Et c'est une question en management qui marche très bien. La structure, c'est comment vous pensez pouvoir faire pour faire. Comment vous pensez pouvoir faire pour me rendre ce rapport à l'heure d'ici ce soir ?
Il y a un des mots-clés aussi dans ton... C'est créer une relation de confiance avec tes collaborateurs ?
C'est la clé. C'est la clé parce que s'il n'y a pas de confiance, il n'y aura pas d'influence. S'il n'y a pas de confiance entre deux personnes, il y a inconsciemment des herses qui vont se dresser entre les deux individus. Ça, c'est très ancestral. Ça nous vient des hommes préhistoriques. Si tu me ressembles, alors inconsciemment, ça veut dire que tu fais partie de la même tribu, donc potentiellement déjà, la confiance, elle va naître à cet endroit-là. Et je vais pouvoir accepter des injonctions que tu vas me donner. Mais si tu ne me ressembles pas et que tu arrives directement en me donnant des ordres, bah, ça ne va pas le faire. Donc on va faire naître la confiance justement par la ressemblance. On fait partie d'un même ensemble, d'une même entreprise, d'un même groupe d'individus. On partage les mêmes objectifs, les mêmes ambitions, et ça, on va le rappeler régulièrement. Et c'est comme ça que tranquillement, avec des questions bien amenées, bah, la personne fera en douceur ce qu'on a envie qu'elle fasse. Et le gros problème que je vois, mais partout, c'est qu'on a tendance à vouloir être trop rapide. On va donner des ordres beaucoup trop rapidement, sans construire cette confiance, et on s'étonne qu'au bout d'un moment, bah, c'est marrant, mes collaborateurs ne m'écoutent pas. Bah, c'est normal, tu n'as pas pris le temps de construire tranquillement ta suggestion, tu n'as pas pris le temps de construire cette confiance, donc tu penses qu'en donnant un ordre, ça va être beaucoup plus rapide, ça va être beaucoup plus... Bah non, c'est un peu comme faire ou apprendre à quelqu'un à faire, tu vois. Oui, faire, ça va être beaucoup plus rapide, mais sur le long terme, eh ben, tu vas te retrouver complètement submergé par le boulot, quoi.
Et comment tu fais dans les situations, dans les périodes de crise ou dans les périodes d'extrême complexité où il y a besoin d'être extrêmement réactif dans les réalisations ?
Ça n'empêche pas le leading. Ça n'empêche pas le leading. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que justement, les périodes de crise, tu n'arrives pas dans une période de crise sans avoir construit avant la confiance. C'est parce que tu as construit la confiance avant que tu peux disrupter à un moment donné. Et dire, ok, à partir de maintenant, les gars, je vais entendre tout ce que vous allez me dire. En revanche, c'est moi le capitaine et on va agir comme ça parce que la justification est excessivement importante. On l'oublie souvent. Pareil, dans le management, on oublie énormément de dire le parce que. Les gens ont besoin d'un parce que pour construire une justification à ce qu'ils font, pour construire une logique à ce qu'ils font. Et si je veux aller encore un petit peu plus loin, le parce que doit être inscrit dans ce qu'on appelle les valeurs hautes de la personne. Alors ça, c'est un truc un petit peu complexe, mais c'est vraiment du management de entre guillemets, au vol. Les valeurs hautes, c'est ce qui fait qu'une personne va se motiver. Elle va se lever la nuit pour traverser la rue alors qu'il neige, pour aller faire un truc que tu lui demandes de faire. Les valeurs hautes, c'est son tigre dans le moteur. Donc si tu arrives à lui trouver un parce que à l'intérieur de ces valeurs hautes, exemple, parce que si on ne fait pas ça, la boîte va s'effondrer, on n'aura plus de quoi nourrir nos enfants. Boum, j'ai utilisé la valeur haute enfant, ok, ça me motive à aller travailler. Et ça, on ne le fait pas. Ça, on dit, voilà, les gars, à partir de maintenant, on va faire ça. Bon.
On ne le fait pas, pourquoi ? Par manque de temps, par manque de savoir-faire, par...
Les deux, mon capitaine. Généralement, on veut aller trop vite. Et généralement, l'histoire des valeurs hautes, ce n'est pas quelque chose qui est très connu, sur lequel on travaille. Moi, j'ai jamais vu dans les écoles de management des cours où on enseignait ce genre de choses, si tu veux. Alors qu'en coaching, l'inspirateur de ça, c'est quelqu'un qui s'appelle John DeMartini. C'est quelque chose de vraiment important. Si tu veux que quelqu'un fasse quelque chose, et si tu veux comprendre cette personne-là, comprendre d'abord ses valeurs hautes. Quelqu'un que tu vas juger égoïste, il n'est peut-être pas du tout égoïste. Il est peut-être égoïste dans tes valeurs à toi, mais dans ses valeurs à lui, c'est quelqu'un d'hyper altruiste. C'est quelqu'un qui est égoïste à l'intérieur de la boîte pour pouvoir être très altruiste à l'intérieur de sa famille. Il va partir à 17h pour être très présent avec sa famille. Toi, tu vas le considérer comme égoïste parce qu'il laisse ses collaborateurs en plan. Ah non, il est égoïste à l'intérieur de la boîte, mais il est très altruiste à l'intérieur de la famille. Si tu le motives à l'intérieur de sa famille, en gros, tu feras ce que tu veux avec lui. Tu arriveras à le manager correctement.
C'est quoi la différence entre l'influence et la manipulation ?
Il n'y en a pas. C'est juste un terme qu'on donne pour ne pas faire peur aux gens. Mais... Et ça, c'est très intéressant parce que...
C'est bien, au moins, c'est honnête comme réponse.
Ouais, c'est super honnête. Il y en a pas du tout. Il y en a pas du tout. Et on va essayer de nuancer un petit peu. Mais je vais être volontairement provoque. Au risque de t'attrister très fort, la première chose que tu fais quand tu viens au monde, c'est de manipuler quelqu'un. Tu manipules quelqu'un pour que ce quelqu'un fasse quelque chose. Tu vas pleurer un coup pour que inconsciemment, ça déclenche le réflexe chez la maman de te donner à manger. Voilà, c'est quelque chose qui est ancestral, qui est inscrit depuis la nuit des temps. Tu regardes n'importe quel mammifère, le bébé est présent, il devient fou, quoi. Il faut absolument lui donner à manger. C'est un réflexe ancestral. Et c'est ce que tu vas faire de manière innée quand tu arrives au monde. Bon. Maintenant, la manipulation. Moi, je fais un sport de combat très engageant et très souvent, j'ai mal au dos. Très souvent, j'ai du mal le matin à me lever. Ce qui tombe bien, c'est qu'en face de chez moi, j'ai un ostéopathe qui est devenu un ami à force. Je vais le voir une heure, il manipule. Et je sors de là, je suis à nouveau opérationnel. Je ne vais pas dire, mec, tu m'as manipulé, je ne suis pas content. Au contraire, je vais être très content. Alors, je vais tranquillement avancer vers l'influence et la manipulation. La manipulation, pour moi, elle est toujours utile tant qu'elle est faite dans le respect de la personne. Dans l'art de la question, notamment, il y a toujours à un moment donné où on va utiliser, quand une personne a un objectif, on va utiliser une phase très importante qui est l'écologie. Est-ce que réaliser cet objectif est vraiment écologique pour toi ? Alors, écologie, ce n'est pas le tri des déchets. C'est, en gros, est-ce que cet objectif, une fois que tu l'auras réalisé, va être OK pour ta famille, ta vie perso, ta vie sociale, ta vie professionnelle et ta vie de couple. Si tel est le cas, c'est OK. Moi, je vais faire tout ce qu'il faut pour que tu ailles là-dedans. Je vais utiliser la provocation, je vais utiliser toutes les manipulations possibles et imaginables pour qu'on y aille. Parce que ça sera, entre guillemets, éthique. Si ce n'est pas fait, ce truc-là, oui, clairement, il peut y avoir de la manipulation pas très éthique. Et quand tu regardes les publicités, on est capable de te faire de te dire que c'est bien de faire à manger à tes gosses n'importe quoi, parce que ça leur permettra de ne pas passer à côté des choses simples. Tu vois de quelle pub je parle. Bah là, à mon sens, c'est un peu de manipulation. Pas forcément très éthique.
Bon, donc en gros, manipulation, oui, mais toi, tu rajoutes une nuance, éthique ou non éthique.
Ouais, exactement. Si tu arrives à aller regarder jusqu'à l'écologie de la personne, tu peux vraiment faire de la belle, vraie belle influence, quoi. Et là, moi, je suis prêt à tout pour que la personne change à ce moment-là, et je suis prêt à tout pour qu'elle modifie ses structures mentales.
Ok. Dans ce que j'ai pu lire là, dans tes travaux, c'est un des secrets pour vraiment passer les caps pour un manager, c'est notamment la délégation à une équipe de gens de haut vol, quoi. Ouais. Comment tu constitues cette équipe de Top Gun, là, de pilote de chasse
Alors, à titre perso...
Quand on l'écrit comme ça, on dit « Ouais, c'est vrai, ça fait envie.
Bah, » c'est la clé du succès, mais encore une fois, c'est une question de temps. Tu vois, alors le nerf de la guerre, je vais apprendre ça à personne, mais le nerf de la guerre, c'est le recrutement. Déléguer son recrutement à des organismes, c'est bien, mais à mon avis, c'est pas suffisant. Déléguer son recrutement et se dire c'est bon, c'est ok, tout va rouler, c'est pas suffisant. Déjà, la première chose, c'est qu'à titre perso, je ne délègue pas le recrutement. Je peux déléguer une partie de recrutement et demander à un organisme de me sélectionner une quinzaine de profils qui soient déjà très bons. Et ensuite, on va utiliser quelques astuces, si tu veux. Quelques astuces pour voir si le ramage égale le plumage. Donc ça peut être des astuces d'hypnose où c'est très compliqué de mentir à un hypnotiseur. Parce qu'on va apprendre à lire les visages, on va apprendre à lire ce qu'on appelle les micro-expressions. Et puis, quand c'est comme ça, généralement, je peux faire appel aussi à un ami qui est un ancien du GIGN, qui a aussi d'autres tests pour voir si la personne est effectivement fiable ou pas. Bien, une fois que la personne elle est chez moi, je vais faire monter la confiance, un petit peu comme on se disait tout à l'heure, en lui déléguant de plus en plus. Et pour moi, il y a une culture d'entreprise qui va être très forte et que je vais instiller, c'est l'accountability. La comptabilité, je veux l'instiller absolument partout, dans tous les deux domaines de ma boîte. Et quand j'embauche quelqu'un, je veux que cette personne-là, elle prenne la responsabilité de ce que je lui donne et qu'elle ne me trahisse pas. Quand elle me dit blanc, ça sera blanc. Quand elle me dit je suis là à 10h30, ça sera là à 10h30. Et je ne fais absolument aucun faux pas là-dessus. Souvent, ce que je vois, c'est que les gens prennent sur eux. Ils disent « Ah, c'est pas grave, ça arrive une fois. Bon, je prends sur moi, je le dirai la fois prochaine. » Mais jamais de la vie, je le fais ce genre de choses. Jamais de la vie. Parce que si je commence à faire ça, je ne suis pas moi-même accountable de ce que je veux dans ma boîte. À force d'instiller cette culture, à force de faire un bon recrutement, d'instiller cette culture, clairement, au bout d'un moment, il y a une sélection naturelle qui se passe et je délègue de plus en plus. Troisièmement, process. Moi, je suis excessivement process, mais je processe tout. C'est-à-dire, je processe de allumer un ordinateur jusqu'à des tâches un peu plus complexes. Comme ça, je suis sûr que je peux, entre guillemets, fermer les yeux, fermer mes oreilles et être tranquille parce que les choses seront faites. Et ça s'apprend aussi. Les gens pensent qu'ils savent déléguer, mais en général, ce que je vois, c'est qu'ils savent pas bien. Ils pensent que les personnes vont faire comme eux veulent. À ce moment-là, il faut vraiment processer tout et dire c'est comme ça que ça va se passer. Si on a un mélange de ces trois choses-là, on commence à sélectionner l'agence de risque autour de soi. Moi, c'est idiot, mais tu as la génération 80, tu modélises Hannibal Smith. Quand il demande à Barracuda de faire quelque chose, il peut fumer son cigare tranquille, il sait que Barracuda le fera. Mais ça se construit au fur et à mesure. Les gars, ils ont fait la guerre ensemble, quoi. Ils ont construit cette intimité ensemble, quoi. Donc, on va partir au combat ensemble. On va faire une vision commune et on va instiller en permanence la culture d'entreprise auprès d'eux, quoi.
Merci pour tous ces éclairages. J'ai une dernière question. Tu as une nouvelle expertise, j'ai l'impression, sur le burn-out du dirigeant.
Ouais. Ah bah ça, ça me tient beaucoup à cœur. Parce que j'ai recentré mes activités autour du burn-out. Alors, pas forcément du dirigeant, mais ce qui est intéressant, c'est que cette activité, elle est née parce que je travaillais avec beaucoup de dirigeants, pas forcément sur le sujet du burn-out, sur le sujet d'améliorer leur performance en coaching. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les gars, ils étaient tous cramés. Mais tous. Ils avaient un équilibre de vie qui était généralement catastrophique. Ils étaient mariés à leur entreprise, donc la vie de couple, ça n'allait pas très bien. La vie de famille, ça n'allait pas très bien. La vie personnelle, ils s'oubliaient complètement, donc leur santé en pâtissait. J'ai eu pas mal de cas où voilà, ils arrivaient à la retraite. Soit c'était des problèmes de santé costauds, soit c'était je suis plus personne parce que mon téléphone sonne plus. Et donc, j'ai voulu vraiment leur donner un modèle opérationnel. Ce qu'il faut savoir une chose, c'est que les dirigeants ne s'arrêtent pas. Ils partent jamais en burn-out. S'ils partent en burn-out, leur boîte, elle se casse complètement la figure. Donc, ils continuent à rester au boulot. Mais avec certains outils, justement, leur permettent de prendre un petit peu de recul, déléguer justement un petit peu mieux pour avoir un petit peu plus d'oxygène et rééquilibrer aussi leur vie perso, leur vie de pro, leur vie de couple. Parce que généralement, ça ne s'est pas bien compris, quoi. Les gens te disent, je veux équilibrer ma vie pro et ma vie perso. Bah, il manque la vie de couple, il manque la vie de famille et il manque la vie sociale si on ne fait que ça. Donc, il y a des outils vraiment très opérationnels qu'on arrive à donner à l'intérieur d'une journée APM et c'est très chouette. Ouais.
Bon, donc un grand champ des possibles. Théo, un grand merci pour cet échange. Est-ce que tu aurais un conseil pour les dirigeants qui souhaiteraient faire un premier pas vers l'auto-hypnose?
Alors, tu vois, typiquement, le mot conseil est un mot qu'on met dans la zone rouge parce qu'on ne donne pas de conseil. C'est si tu donnes un conseil, tu te mets directement en position haute, c'est-à-dire je sais mieux que toi. Ça, c'est très ericksonien, justement. Donc, on va se mettre en position basse et laisser le dirigeant se dire, tiens, d'après ce que je viens d'entendre, est-ce que ça m'a donné envie de me lancer un petit peu dans une auto-hypnose qui ne serait pas négative, auto-hypnose qui génère du stress, qui génère l'angoisse, qui me dit, mon Dieu, comment je vais finir la fin de l'année, mais qui serait positive. Tiens, comment je peux me mettre dans telle disposition pour faire en sorte que mes objectifs de fin d'année soient explosés, multipliés par 2 voire 3? Bah, si tel est le cas, à ce moment-là, il y a plein de choses sympas à mettre en place.
Un grand merci pour cette mise en perspective et en situation directe. Merci beaucoup, Théo.
Avec grand plaisir. Salut, merci Rémi.
Allez.